Cinquième numéro et dernier pour le compte de cette semaine, chers auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous choisir quand il sonne déjà 11h, passé de quelques instants sur la nouvelle génération. Thomas Datv est à la mise en onde de cette émission, Géraud Dakuta est à la mise en onde, je suis Pascal Lossou au micro. Club de la presse, c'est avec nos radios partenaires, Radio Lumière, à Neho, Radio La Paix, à Takpamé, Central FM, à Sokodé, Radio Daoul, à Bassa, Sama FM, à Niamtougou, et puis Radio Courtoisie, à Dapaon. L'émission Club de la presse, c'est également sur nos différentes plateformes numériques et aussi sur des radios en ligne partenaires comme Ibn Radio et Radio Les Bénins. L'émission Club de la presse, c'est avec le débat, l'analyse et aussi des commentaires de l'actualité d'ici et d'ailleurs en studio avec des confrères journalistes et des invités, confrères journalistes déjà présents. Alors sur ce plateau avec moi, Francisco Napokoura, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour à tous les télé, auditeurs et auditrices de Canal FM, et spécialement à M. Gabriel Achirmi, à 605 rue Kwandalolo, de Kointumasese. C'est un fidèle auditeur du Club de la presse.
Voilà.
Et également Vicentia, Vicentia Etepo, qui également est une grande auditrice de la nouvelle génération.
Voilà. Je rappelle tout simplement que vous êtes le directeur du journal Tampa Express et vous êtes là pour l'analyse de l'actualité et aussi des commentaires. Autre confrère journaliste présent sur le plateau, c'est Firmin Teko Agbo. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Ouais, tout va bien.
Et les chroniques
Ouais, ça va.
Puisque vous nous avez habitués à vos chroniques, quand il y a des sujets à l'heure de l'actualité, vous sortez avec des chroniques et justement, on vous connaît plus alors sur ça.
Ouais, bien évidemment, vous vous rappelez que tout récemment, ça fait déjà moins d'un mois, nous avons sorti une chronique pour dire qui a été très affirmative, même si les gens n'étaient pas trop d'accord. C'était juste au lendemain du discours de Macky Sall, qui avait renoncé à se positionner pour un quelconque troisième mandat. Et nous avons dit que nous, ça n'avait pas dit grand-chose, parce que s'il avait annoncé sa candidature, ça ne nous aurait pas trop dérangé. Parce que pour nous, nous avons dit que la limitation de mandat est antidémocratique.
On en parlera dans un instant.
Donc justement, c'était la chronique là qui avait, créé assez de mécontent. Mais c'est la vie, c'est aussi notre manière de voir les choses. Moi, je dis, si la démocratie nous a pu nous donner quelque chose, c'est cette liberté de penser, cette liberté d'expression là. Donc, c'est au nom de cette liberté d'expression que nous sommes encore venus ici pour partager un peu avec ceux-là qui nous écoutent et qui nous écouteront notre manière de voir les choses, notre point de vue. Bien sûr, peut-être cette manière peut être erronée, mais nous ne sommes pas venus tromper les gens. On peut se tromper, mais nous ne sommes pas venus pour tromper les gens. Mais si, d'aventure, nous arrivons à heurter des gens par nos positions, nous leur présentons toutes nos excuses.
Et je pense tout simplement que la liberté d'expression fait partie quand même des critères de démocratie et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter ici, c'est important. Alors, nous avons un invité, vous l'avez constaté, déjà, il est avec nous, et Waris Thébier, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs, chers confrères, bonjour.
Vous êtes le responsable administratif alors de l'association Anja, attendez à venir de la nouvelle jeunesse africaine. Mais ce matin déjà, on vous voit en masque. C'est vrai que ça ne nous étonne pas trop puisque vous avez un événement. L'événement, c'est bien sûr l'événement alors des galas masqués. Voilà. Galas masqués 100% charité. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi d'abord vous êtes en masque?
Ok, merci Pascal pour cette opportunité. Merci également à la radio de nous permettre de nous exprimer pour parler de ce gala. Le gala masqué 100% charité, c'est un gala pour marquer les 5 ans de l'avenir de la nouvelle jeunesse africaine, parrainée par Madame Léa Dovi, qui est une Togolaise de la diaspora. Donc la session Anja existe, ça fait 5 ans. Dans le Cloto, l'association a décidé, à travers la marraine, de venir en aide à ces élèves-là qui ont manqué leur école. Soit parce que un parent n'est pas là, soit parce que la jeune fille, par erreur, est tombée enceinte. Donc, c'est la jeune fille qui perd son éducation et aussi c'est son enfant qui est en détresse. Donc, l'association a été créée justement pour venir en aide à ces enfants-là qui ont été, d'une manière ou d'une autre, déscolarisés. Parce qu'on se rend compte généralement que la plupart des associations des donateurs, on se focalise beaucoup plus sur la fourniture, soutenir ceux qui vont à l'école, alors que malheureusement, l'école ne nous garantit pas une vie épanouie, etc. Donc on s'est dit qu'il fallait se tourner vers ces jeunes-là et leur redonner un nouvel espoir. Donc ces 5 ans, on s'est dit qu'on ne va pas rester entre nous, le faire comme on a l'habitude de faire avec nos petits moyens et tout. Il fallait qu'on s'extériorise pour présenter aux gens ce que Anja et Léa de Zurich ont fait depuis 5 ans. Donc c'est ce qui justifie ce gala-là pour marquer nos 5 ans à l'hôtel Onomo demain à partir de 19h30.
Alors comment ça va se dérouler, le programme?
Voilà, le programme, il est assez flexible. On va d'abord commencer dans une ambiance africaine avec un ballet pour accueillir nos convives. Et il y aura la dégustation de Tchoukoutou Déha également. Et donc après ça, on va passer à l'apéro proprement dit avant de rentrer dans les jardins de l'hôtel Onomo où il y aura un défilé de mode avec 3 stylistes. Il y aura Crédania. Il y aura également Kavelitz qui sera la guest et il y aura également un jeune qui s'appelle S. Flem que je voudrais vraiment demander à toute la population togolaise de se déplacer pour voir ce que ce jeune-là est devenu. C'est vrai, c'est un jeune qui s'est battu lui-même, il n'avait pratiquement rien, mais il s'est battu, il a fait sa formation sans bien sûr notre soutien. Mais aujourd'hui, ayant vu le succès de ce jeune, on s'est dit qu'il faudrait qu'on le présente d'une manière ou d'une autre pour que les gens comprennent que... on peut perdre un parent, on peut rater son éducation, l'école je veux dire, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut tout simplement se ressaisir, trouver une icône, une personne à qui tu voudrais ressembler et se battre vraiment pour se donner soi-même une deuxième chance.
Mmh. Donc, c'est très important alors de se donner une deuxième chance, justement. Même s'il arrivait qu'on rate alors l'école. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez, par rapport même d'ailleurs à l'association Anja, est-ce qu'il y a un bilan aujourd'hui à établir?
Oui, le bilan, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire c'est la marraine de ses propres fonds. En plus, quelques donateurs de l'association qui, depuis 5 ans, soutiennent ces enfants-là de manière séparée. Donc, ce qu'on fait, c'est d'essayer de repérer ces jeunes-là dans le secteur du Cloto, bien sûr, et de les placer en famille. Peut-être quand la maman ou le papa n'est plus là, il y a un oncle qui veut bien prendre l'enfant, mais il n'a pas de moyens. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est de soutenir cet oncle ou bien cette tante-là qui accepte cet enfant. Donc, il y a environ 250 enfants qui ont été touchés ici et là, de manière sporadique. Mais maintenant... puisqu'on est en train d'institutionnaliser la chose, et c'est ce qui justifie ce gala-là qu'on organise. Et donc, en dehors du défilé, comme je le disais, il y aura des prestations d'artistes, Tony X, Ralicia, il y aura également Sec, pour nous chanter l'amour, il y aura également Rimsal, il y aura également de jeunes artistes pour annoncer la piste, notamment avec Enam. Et il y aura également une surprise, je dirais ça comme ça, un artiste de la diaspora qui s'appelle Fenou Ambro, qui a accepté également d'accompagner cette initiative de l'association Anja et de Léa de Zurich.
Alors, est-ce qu'il y aura un prix d'entrée ou bien c'est gratuit?
Oui.
Ou, comment ça se passe?
On aurait aimé le faire gratuitement, mais l'objet même de ce gala de charité, c'est de pouvoir mobiliser des fonds, en fait. C'est pour ça que nous le faisons en gala. D'abord, pour mettre les invités à l'aise, un cocktail traditionnel, un cocktail moderne de l'hôtel Onomo. Ensuite, un dîner et la prestation d'artiste, sans compter le défilé de mode. Donc, le pass est à 50 000 francs. 50 000 francs pour avoir accès à tout ça. Et au cours de la soirée, il y aura une vente aux enchères. Les stylistes qui nous accompagnent aussi sont des stylistes. Il y a parmi ces stylistes Crédania, qui est une infirme, mais elle aussi, elle a pris sur elle qu'elle va transcender cette infirmité-là. Elle ne s'est pas arrêtée à elle seule. Elle forme des sourds, elle forme des handicapés, etc. Donc, c'est une manière de dire que ce gars-là, vraiment, c'est pour dire qu'il y a toujours une deuxième chance, quelle que soit la condition dans laquelle tu es. Et donc, ces stylistes-là vont donner chacun une tenue volontairement qu'on va mettre aux enchères. Et les fonds collectés, en plus, les bénéfices, s'il y a lieu, vont servir à construire un centre de formation pour les enfants qui ont déscolarisé le centre va se construire au niveau de Kwalimi.
Voilà. Est-ce qu'il y a des contacts pour soit des inscriptions, du moins savoir des plus d'informations?
Oui, oui. Vous pouvez tous contacter le 90 88 52 51 ou tout simplement, pour ceux qui me connaissent, me contacter au 98 96 54 52.
Merci beaucoup, Raïs Tébié, d'être passé chez nous dans cette émission. Et donc, nous invitons alors les uns et les autres à faire le déplacement demain, le 5 août, à l'hôtel Onomo. Et c'est à partir de 19h pour ce gala masqué. 100% charité, tel que vous l'avez dit. Ce sont des fonds qui seront collectés et pour aussi aider les élèves, les démunis, les vulnérables. Vous avez quelque chose à dire?
Oui, c'est plutôt moi qui vous remercie. Mais j'aimerais tout simplement rappeler aux auditeurs que lorsque vous achetez un ticket, il faut vous dire que vous êtes en train de soutenir un jeune homme qui est déscolarisé, qui est en détresse à quelque part. Donc sortez massivement pour qu'ensemble avec les artistes, qu'on fasse la fête, bien sûr, parce que c'est ça qui j'ai dit, mais au-delà de la fête, qu'on puisse se rappeler de tous ces jeunes-là qui pourront, à partir de septembre, bénéficier du soutien de l'association Angers.
Merci beaucoup, Aurélie, c'était bien. Je rappelle que vous êtes le responsable administratif alors de l'association Anja, Avenir de la Nouvelle Jeunesse Africaine. Vous venez alors de nous parler de cet événement, Gala Masqué 100% Charité, qui se déroulera demain 5 août à l'hôtel Onomo. Alors, nous revenons en studio alors dans cette émission et nous parlons alors du premier sujet. Le premier sujet alors qui nous intéresse avec nos confrères journalistes en studio avec nous, c'est bien ce titre alors de l'éveil de la nation. L'éveil de la nation qui titre ce matin « Grand Lomé, démarrage de la phase additionnelle des transferts monétaires ». Alors, Francisco, bonjour ou rebonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, depuis le lundi dernier, il y a le lancement officiel alors de transferts monétaires dans le Grand Lomé. C'est vrai que depuis il y a un bout de temps, ça se passait plutôt à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est le Grand Lomé qui accueille les transferts monétaires. Transferts monétaires, et pratiquement, il y a à Guanivé 1, 4 et 6, et aussi Golfe 1, 4 et 6. Je veux bien parler de ces communes qui sont plus concernées par ces transferts monétaires. Napokura. Alors, finalement, il y a quelque chose qui se fait en matière de... quand on parle alors de ce transfert monétaire, c'est aussi pour, en quelque sorte, endiguer la pauvreté.
Je crois que le premier moteur de notre gouvernement au discours, depuis près de 20 ans, plus de 15 ans, c'est la lutte contre la pauvreté. Je crois que Tampa Express a largement et abondamment est revenu longtemps sur la rhétorique de lutte contre la pauvreté. Et pendant qu'on dit qu'on lutte contre la pauvreté, on constate malheureusement que malgré les fonds sortis et mobilisés, on constate que la pauvreté prend plus encore de forme, de proportion. Ces transferts de fonds, la dernière fois qu'on a vu, c'était une convention financière de l'extérieur. On fait une convention financière, on fait des prêts, des crédits à l'extérieur pour venir financer le social et mettre dans la main des gens. Alors que normalement, on l'avait dit, nos crédits devaient nous permettre de relever le tissu de production, c'est-à-dire que investir dans la production. Nous avons dit c'est l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour l'agriculture? Et puis, la transformation. Donc, on ne le fait pas, mais on fait du saupoudrage en disant qu'on donne de l'argent aux gens qui, a une fois évalué tout ce qui est donné, c'est-à-dire qu'après avoir donné de l'argent à des citoyens pour manger sur une période, qu'est-ce que ça a donné? Donc, on ne nous présente pas des résultats. On continue seulement d'accroître les crédits bancaires, les prêts à l'extérieur pour jeter par la fenêtre, en quelque sorte. Pour nous, c'est un non-événement parce que ça ne contribuera jamais, d'accord, à relever le niveau de vie des Togolais. Parce que donner de l'argent à quelqu'un pendant des années, le jour que vous suspendez Hein, vous suspendez de lui donner l'argent, il devient plus pauvre qu'avant.
Oui, Napokura, quand vous dites que c'est un non-événement, la fois passée, nous étions sur le terrain, nous avions vu les bénéficiaires de ces transferts monétaires, mais il y a toute une joie qui les animait.
Cher Pascal, regardez autour de vous, ne regardez pas le folklore. Autour de vous, voilà, est-ce que la pauvreté diminue ou ça s'accroît? C'est la simple question que moi je vous pose. Les zones dans lesquelles on nous dit souvent, on fait des investissements. Je prends la zone des savanes aujourd'hui qui est en proie avec le terrorisme. Mais pendant combien d'années on ne nous a pas dit les litanies? Oui, des ONG et dans les savanes, les ONG progressent, ça travaille. Mais qu'est-ce qui se fait? C'est la pauvreté endémique. Mais on vient, on nous dit, on fait le comment vous l'appelez? La distribution électronique encore d'argent et à Lomé. Mais ce codé qu'on a embassé pendant des périodes, combien de fois on a fait le monde là-bas? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que dans cette histoire de transfert d'argent, nous on avait déjà compris le principe depuis qu'on avait commencé par l'engrais. D'accord?
Oui.
Mais quand vous voyez derrière toute la machine, comment l'engrais n'arrive pas aux paysans, mais l'argent a été dépensé et déployé. Donc les gens ont trouvé, surtout les transferts électroniques, c'est très simple, de les détourner. Hein, ça. Et puis quand on demande les comptes, personne n'arrive à couper le compte, personne n'arrive à faire le bilan. Donc comme ça arrange les gens, donc ça continue. Si c'est comme ça que les gens veulent qu'on aille chercher de l'argent, des crédits, qu'on va payer à taux d'usurier. On va payer à taux d'usurier pour mettre dans les mains, c'est-à-dire qu'on désigne une portion de la population, on leur donne à les manger pendant ce temps. Il y a des pauvres ailleurs, plus pauvres que ceux-là à qui on donne. Donc, c'est un choix.
Oui, mais là aussi, ça s'est basé sur des critères, puisqu'il y avait une identification, un processus d'identification qui a été fait d'abord. Firmin, alors, pour vous, est-ce que vous êtes aussi du même avis que ces transferts monétaires dans le Grand Lomé, c'est en quelque sorte un non-événement?
Non, ce n'est pas un non-événement. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Francisco Napokura. Vous savez, ce qui est en train de se faire là, quand on parle de transfert monétaire, c'est ce qui se fait dans les pays occidentaux. Au fait, eux, ils l'ont institutionnalisé. En fait, je vais vous décevoir peut-être ceux qui nous écoutent. Moi, lorsque j'ai commencé par Granioko, lorsque je suis rentré dans le journalisme, et que j'analyse un peu ce que le général Niasingbe Adema faisait, moi, je me dis, il n'avait pas totalement tort. Lorsqu'il y a Adema appeler les gens, ils leur distribuaient de l'argent. Au fait, on peut condamner peut-être la méthode, mais le fond n'était pas mauvais. Au fait, c'est ce qui se fait dans les pays occidentaux. C'est-à-dire, eux, ils ont institutionnalisé cela. C'est-à-dire, vous, peut-être qui êtes chômeur, vous qui n'avez rien, à la fin de chaque mois, vous percevez quelque chose. C'est-à-dire, en fait, l'État est là pour tout le monde. Pour ceux-là qui travaillent et pour ceux-là qui n'ont rien sous la main. Donc, on appelle ça de la solidarité. Quand on parle de la citoyenneté, Il y a la solidarité qui est un élément important, le civisme, la civilité et la solidarité. La solidarité occupe une place importante, c'est-à-dire l'État doit être solidaire de ceux-là qui n'ont rien à manger chez eux. L'État, le chef de l'État qui est là, il doit tout faire pour que tout le monde mange au moins quelque chose avant de se coucher la nuit. Donc, c'est ce qui se fait dans les pays occidentaux. Aux États-Unis, par exemple, quand vous ne travaillez pas, lorsque vous perdez votre boulot, l'État vous donne 6 mois. Pour vous trouver du boulot. Mais pendant ces 6 mois-là,
il y a des allocations.
Il vous a des allocations. En France, partout, c'est comme cela. Donc, pourquoi? Parce que lorsque vous avez des gens pauvres qui n'ont rien, l'économie ne tourne pas. La croissance, c'est quoi? C'est l'investissement et la consommation. Donc, quand on injecte de l'argent dans l'économie et que tout le monde a quelque chose, donc vous pouvez aller au supermarché, vous pouvez aller dans les bars, vous pouvez faire tourner l'argent que vous avez. Vous ne l'avez pas gardé chez vous. Mais vous allez faire tourner ça dans l'économie. Donc, c'est ce que les Blancs font, les Occidentaux font. Et c'est ce que le général Yadim aussi faisait, en fait, en quelque sorte. Moi, je me rappelle que lorsqu'on était à l'université, il y avait un samedi, il y avait des amis étudiants qui étaient allés à Lomé 2. Et le lundi, j'avais eu une amie, je l'avais vue dans une tenue toute neuve. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'ami me dit, moi, j'étais allé prendre 20. C'est ce que la dame avait dit. Parce que c'était, elle avait une nouvelle tenue, elle avait une nouvelle chaussure, elle avait une nouvelle montre. Vous voyez, ça a permis, elle a pris 20 000 là-bas, mais ça, cela lui a permis d'injecter ça dans l'économie. Donc, c'était pas gratuit. Donc, quand on injecte de l'argent, on fait de l'argent dans ce part du pays. Ça, on permet, ça fait tourner l'économie. Donc, ce que le pouvoir de l'OMO aujourd'hui est en train de faire en ce qui concerne le transfert monétaire, c'est pas mauvais en soi. L'argent, c'est l'argent du Togolais qui est injecté dans l'économie. Ceux qui n'ont pas besoin, qui vont prendre de l'argent, vous allez, ils vont aller au marché. Ils vont se payer du maïs, du manioc, du savon, ainsi, du sucre, ainsi de suite. Donc, c'est l'économie qui tourne. Donc, en soi, c'est pas mauvais. Bon, sauf que, moi, je souhaiterais que cela soit bien institutionnalisé pour tout le monde. De Lomé à Saint-Cassé, de l'Est à l'Ouest. C'est-à-dire, on sait qu'il y a telle catégorie. Lorsque vous ne travaillez pas, vous n'avez rien, vous avez droit à ceci. Lorsque vous finissez vos études, vous voulez d'avoir votre master, vous, on vous donne un an pour trouver de l'emploi, pour trouver de l'emploi. Alors, vous avez quelque chose à faire chaque mois. Vous, peut-être, vous êtes coiffeuse. Vous avez appris quelque chose. Vous n'arrivez pas encore à ouvrir votre atelier. L'État met à votre disposition telle somme. Là, ça permet de faire circuler de l'argent. C'est de la solidarité. C'est pas mauvais en soi. Moi, bon, peut-être, je vais être d'accord en partie avec Francis qu'on a pourquoi lorsqu'il dit que c'est une convention qui a été signée, peut-être on n'a pas d'argent dans la caisse, peut-être on fait appel à l'extérieur pour nous donner un peu d'argent pour pouvoir gérer. Parce que si on ne fait pas ça, l'économie ne peut pas tourner. C'est nous qui disons que la croissance n'est pas au rendez-vous. Mais on ne peut pas parler de croissance s'il n'y a pas la consommation. La consommation, c'est quoi? J'ai de l'argent, je vais au marché pour consommer, pour m'acheter du gombo, du maïs. C'est ça la consommation. Donc, moi, au fond, je ne suis pas contre, mais la forme, on peut l'institutionnaliser. Et puis, comme peut-être on parle aussi d'un recensement à venir pour permettre aux gens de s'identifier électroniquement, peut-être que ça va permettre d'améliorer les choses.
Je parle de l'endettement structurant. C'est-à-dire qu'on ne s'endette pas, d'accord? Vous êtes là en tant que papa à la maison, vous vous endettez pour nourrir la famille. Quand vous vous endettez, c'est pour investir, surtout des prêts à payer avec intérêt. D'accord? Vous savez, je dis, avant de faire l'aumône, je vous dis, avant de faire l'aumône, payez vos dettes d'abord. Ce qu'on demande à l'État togolais, c'est de mettre d'abord le minimum à la disposition de sa population. Un État qui organise des concours de recrutement de la fonction publique, qui fait dépenser ses citoyens, ses concitoyens, pour le recruter, un concours. Ils ont dépensé, c'est plus de 10 000 pour déposer un dossier. Aujourd'hui, la fonction publique a fait des concours, je crois 4 concours au moins, d'arriérés de résultats qui n'ont pas été proclamés. Mais imaginez, au moins proclamer un seul résultat, ok, que ces Togolais aient de l'emploi, ils vont diminuer un tant soit peu la pauvreté. Vous savez ce que c'est? Lorsque une seule personne travaille dans une famille, ce que cette personne représente pour le village.
C'est toute la famille qui est nourrie.
Si on arrivait, c'est-à-dire que cet argent qu'on prend, qu'on lance comment on l'appelle, de l'os au chien à Pavlov, d'accord? Si on prenait cet argent pour disons diminuer le chômage, d'accord? On crée de la valeur. Je parlais tout à l'heure de relever le tissu et de production qui est l'agriculture. On en parle, on ne fait que danser autour. La main d'œuvre pour aller vers l'agriculture, on en a pas. Les machines pour cultiver, on n'en a pas. Mais investissez. On dit on veut faire tourner l'industrie. Allez à PIA, à la PIA. C'est un échec. Aujourd'hui, on veut faire le textile. Le coton pour faire le textile est où? Il n'y en a pas. Parce que la production du coton a beaucoup baissé. Totalement baissé, en train de disparaître même. C'est de ça qu'on parle. On ne dit pas que un État ne doit pas donner de l'argent à ses concitoyens. On doit les donner, mais il y a des priorités avant d'aller là. Allez dans les hôpitaux. La semaine dernière, il y a un rapport de, je crois, Amnesty qui est sorti, qui dit qu'on accouche à même le sol dans les pédiatries. Ce n'est pas faux. Donc, ce n'est pas faux. Moi, je parle en tant qu'économiste. Ce qui va relever le niveau du pays, d'accord, pas ce qui va sombrer. C'est ça qu'on est en train de faire. Parce que les crédits qu'on prend pour distribuer, au lieu d'investir pour produire et avoir de la valeur ajoutée, cette valeur ajoutée est partagée. Ok, on prend, on met dans la main d'une personne, la personne va, la personne mange et c'est fini. Il devient clochard encore demain parce qu'il va toujours attendre, et tendre la main, attendre à ce que cet argent qu'on distribue par Timoni, et donc, je dis, une infime partie va aux populations et le reste, là où ça passe, on ne sait pas. Aucun compte n'est présenté derrière pour aussi nous dire que voilà ce qui s'est fait, mais ce que nous avions fait à Dapao il y a quelques années, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire la pauvreté a reculé à Dapao? Non. Est-ce que la pauvreté a reculé dans les savanes? Non. Les zones dans lesquelles on avait fait cette distribution. C'est de ça que je parle. Et je dis que chacun, donc que chacun se vit en soi pour regarder autour de lui, si lui-même, il se développe. Et si autour de lui, les gens se développent. En ce moment, on peut continuer le
débat. Merci beaucoup, Francisco.
Moi, je voulais juste ajouter un petit truc. C'est comme... je ne voudrais pas faire de l'amalgame. En fait, c'est deux choses différentes.
Il faut éviter cette discussion. Que d'autres ne sont pas réfléchis.
Vous ne me comprenez pas.
Au contraire. Francisco, s'il vous plaît.
Je n'ai pas dit que Francisco n'a pas courage en train de faire de la amalgame. C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne veux pas faire de la amalgame. C'est ce que j'ai dit. Oui. Donc, je parle de moi.
Non, Francisco, s'il te plaît. On laisse Firmin continuer dans sa logique.
Moi, je parle de moi.
Ok, merci beaucoup.
Moi, je me dis, on parle de deux réalités différentes. Nous sommes en train d'analyser le transfert monétaire. Est-ce que c'est bon en soi? On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'autres réalités ou qu'il n'y a pas d'autres priorités ailleurs. Ce que moi, je suis en train de dire en ce qui concerne le transfert monétaire, c'est que c'est un acte de solidarité. Et dans tous les pays au monde, ça se fait. C'est ce que je dis. Dans tous les pays, moi, ça se fait.
Et c'est institutionnalisé.
Et c'est ce que moi, je souhaiterais que le gouvernement togolais arrive à le faire. Surtout avec l'identification numérique totale que nous aurons dans les prochains jours. Quand on parle de l'endettement et tout ça, dans les pays même les plus endettés, le Togo n'est pas le premier pays le plus endetté au monde. Dans les pays les plus endettés au monde, ça se fait. Mais je ne dis pas qu'il y a des priorités. Je ne dis pas qu'à l'hôpital, tout est beau. Je ne dis pas que peut-être dans les industries tout est beau, mais sauf que moi je ne mélange pas les deux choses, c'est deux choses complètement différentes.
Alors on va quitter le sujet, on va quitter ce sujet et on parle alors d'autre chose. Et nous allons parler alors du cas Comité d'action pour le renouveau, et nous savons depuis un temps que alors au sein de ce parti politique les choses ne vont plus en tant que telles et crise au Comité alors d'action pour le renouveau. Alors le journal Kana Indépendant titre à ça une ce matin à la machette même d'ailleurs: crise au Comité d'action pour le renouveau, les protagonistes devant la justice le 9 août prochain. Alors, Togo Matin titre aussi sur le sujet, car le sanctuaire de l'agbouibisme continue d'être secoué. Francisco, finalement, quand on prend des partis politiques, enfin on prend le parti politique de l'opposition comme le cas, finalement, allez, on constitue même d'ailleurs, ou bien au sein de ce parti politique, il y a tellement de distensions, de telles enseignes que, allez, on n'arrive pas à se souder, à avoir l'union.
Non, vous savez, les partis politiques au Togo, c'était les premiers moments qui étaient bons. Mais peu après...
Quand vous parlez de premiers moments, c'est...
Oui, les premiers moments, c'est-à-dire que la naissance des partis politiques à partir des années 90... C'est là qu'on sentait véritablement des hommes politiques qui voulaient travailler pour le pays. Mais depuis la conférence, surtout quand le professeur Léopold Ninévi a préféré la démocratie d'abord, et ce qui s'est passé par la suite avec les tournures de Kofi Go, d'abord, je peux dire que c'est les premières trahisons la transition. Mm. Et après, c'était devenu seulement des estocades. C'est-à-dire que l'opposition s'est formée, on a des oppositions. C'est-à-dire que l'opposition même s'est formée en opposition contre elle-même. Donc chacun y va pour tirer le drap vers le bas. Et je crois que les lieutenants aussi, à un moment donné, ont vite compris que les patrons aussi, comme ils se tirent les balles dans les pieds, et souvent c'est qui ? C'est au profit du pouvoir. Et donc ça devenait un marchandage où chacun préfère négocier et avec le parti au pouvoir que de s'entendre entre eux en tant qu'opposants. Et ça va m'amener à vous proposer, et sinon à proposer aux lecteurs très prochainement, certains écrits par rapport à comment notre opposition s'est comportée et s'est tuée, même jusqu'au retrait de la candidature à l'époque d'Edouard Edem Kodjo, qui était aux portes de la Marina. Mais c'était Gilles-Christ Olympio, je crois, à l'époque, qui avait donné les instructions que le code, je crois, 2 retire sa confiance à chose. Et donc, Kodjo, qui était à l'intérieur pour sa campagne, était rentré. Et voilà là où nous en sommes. Et ça a continué parce que c'est très rentable de négocier avec le pouvoir en place. Vous avez vu la dernière fois quand Gilbert Barra a eu l'audace de présenter le tableau, comment se comportaient nos opposants. Et quand vous prenez particulièrement le cas, je vous ai dit ici plusieurs fois, Agouibo était beaucoup avocat du système, même au Kansé. Moi, je voyais au Kansé chez Baka Michel à l'époque, où on était à Douma-Sessé. D'accord ? Mais était plus proche du pouvoir que de l'opposition, par le business. Ok, et Agouibo n'a jamais cessé. Agouibo a été toujours après le petit moment d'opposition, lorsqu'il a su qu'il ne peut pas aussi, prendre le pouvoir. Donc lui aussi, il a joué son jeu jusqu'à un moment donné. Vous avez vu, si un jour Maître Apevon veut parler, comment ça se passait? Je me rappelle un jour un officier, un supérieur qui vit encore, me disait que ce qui énervait plus le général Ameyi, paix à son âme, que c'est quand Maître Yavi Agouibo rentrait à Lomé 2. Quand il vient, avec un sac affamé, il repart avec un sac plein. C'était des témoignages, pas aujourd'hui. Nous, on a des informations qui montrent qu'on avait une opposition qui n'était pas sincère. Et donc, ce qui fait que lorsque le moment arrive, chacun veut être à la tête. Vous avez vu, après Bouanta a quitté le parti, il est revenu. C'est à ce moment qu'il devait organiser sa transition. Et je dis toujours, puisque nous on a vécu pratiquement dans les mêmes quartiers, je dis toujours, quand Maître Yavé Agouibo a eu, disons, la possibilité de prendre la primature, je peux dire que le premier acte qu'il avait posé, c'était de sortir son fils en prison. Je vous le dis, témoignez, vous allez chercher les carnets. Son fils était, à un moment donné, lecteur. C'est-à-dire des dénigrements, motion de dénigrement de son papa dans les jardins de Lomé 2. Les bandes vont sortir, vous allez voir. Quand je l'ai dit, les bandes vont sortir. Mais quand l'argent que Yadema donnait était fini, le fils était devenu quoi ? Il était devenu un voyou, un braqueur. Il s'est retrouvé en prison. Mais quand il est venu Premier ministre, il a sorti de prison. Qui a crié ? Personne n'a crié. Même le pouvoir en place n'a pas dit « Vous avez mal fait » parce que le Premier ministre, son fils, ne peut pas être en prison. Mais il a retapé toutes ses maisons. Mais avant, toutes ses maisons étaient tombées en désuétude. Non, je vous dis des choses qui sont palpables et que nous avons vécues. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le parti a besoin d'une tête. Les gens veulent être proches pour aller négocier avec le parti au pouvoir pour avoir leur gain. C'est tout l'enjeu. Et c'est tout ce qui se passe au niveau des partis politiques de l'opposition. Ceux qui sont habiles ont pu vite sortir pour aller créer. Mais ceux qui veulent dormir encore dans quoi là, dans je crois, on dit charisme de Maître Aboubo. Le charisme là, on l'a connu, à un moment donné le charisme n'a pas résisté également, disons, à l'usure du temps. Et il faut que les Togolais le sachent, tous les partis politiques du pays sont conçus ainsi. Et je dis, même le RPT qui est là-bas, ou bien UNIR qui est là-bas, le jour qu'ils perdront la tête, ou quand Fort va décider un jour que je ne serai plus président, je vais aller me reposer quelque part, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que là, même là, il y a plus de rivalité, hein, et puis plus de moyens d'affrontement que ce qu'on est en train de voir au niveau de l'opposition.
Francisco, merci. Et Fermé, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que le cas a besoin d'une grande locomotive qui pourra mieux, en quelque sorte, structurer le parti politique?
Mais est-ce que... c'est vous qui posez la question, mais... Est-ce que même si on fait venir une grande locomotive, ça va marcher? Moi, je me dis que tous ceux-là qui sont aujourd'hui au niveau du CAR ne sont pas des convaincus politiques.
Donc, ils disent même d'ailleurs que Maître Yaoundé Agbogbo est parti avec le parti.
Oui, Maître Yaoundé Agbogbo est parti avec le parti. Il est parti avec toute son idéologie. Cela démontre en suffisance que ce que nous sommes en train de vivre témoigne du fait que Maître Yaoundé Agbogbo était le seul qui savait pourquoi il avait créé son parti et là où il voulait aller. C'est-à-dire tous ceux-là qui l'entouraient, en réalité, n'étaient pas convaincus de son idéologie. Tous ceux-là qui l'entouraient, en réalité, n'étaient pas de politiciens. Vous imaginez, moi je dis, si la démocratie peut-être nous a pu nous donner quelque chose, c'est-à-dire ce qui concerne la liberté d'expression ou autre, il y a une chose fondamentale que la démocratie, n'a pas essayé de nous donner. C'est-à-dire des hommes politiques aguerris, une opposition sérieuse et sincère. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ces 30 dernières années nous ont démontré à suffisance que nous n'avons pas pu construire une opposition sérieuse, une opposition sincère, une opposition capable de constituer une alternative crédible. Donc c'est pour cela que le pouvoir de Lomé est toujours là. Parce qu'en face, il n'y a jamais eu d'alternative crédible. C'est-à-dire, en face du pouvoir, peut-être dans les années 90, au début, il y avait peut-être une alternative crédible, mais avec le temps, on s'est rendu compte que non, ça ne peut pas marcher. Donc c'est ce qui a contribué toujours à enraciner le pouvoir qui est en place. Donc, Le pouvoir est en place parce qu'il n'y a pas d'opposition. Je reprends, le pouvoir togolais, le Front National est en place parce qu'en face, il n'y a pas d'opposition.
Et les partis politiques d'opposition sont là, est-ce que ce ne sont pas des...
Le pouvoir a détruit son opposition. Non, ça, il ne faut pas le...
Non, ne pas le passer sur la procureur.
On laisse, voilà.
Je veux dire qu'au début, les gens étaient sincères. Les maîtres à Gouibo, les maîtres d'église, tout cela des premières heures, étaient des gens sincères. Ils voulaient quelque chose. Ils voulaient la démocratie. Mais après que les gens sont revenus de France, c'était autre chose. Et maintenant, la chose la plus grave, c'est que ceux-là qui ont commencé avec la démocratie, la plupart qui ont créé les partis politiques, les ont créés avec des membres de famille, des amis. Ils ont dit, venez, tu fais quoi à la maison? Tu as 20 ans, tu es à l'université, viens, on va créer. Donc, les gens sont entrés dans les partis politiques sans aucune conviction politique. C'est-à-dire parce que je cherche de l'argent, je veux avoir un emploi et je deviens politicien. C'est pour cela que nous sommes en train de vivre cela aujourd'hui. Pendant longtemps, Maître Agbogbo s'est entouré des gens qui n'étaient pas convaincus. C'était lui seul, c'est lui qui sortait de l'argent, c'est lui qui donne des orientations. Et donc, tout le monde s'agglutinait, s'accrochait à lui. Il a dit, on le suit partout où il va. Il a dit, vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous désolidarisez, vous avez créé votre parti politique. Donc, il est le seul maître. Aujourd'hui, il meurt, c'est fini. Et puis, il n'y a plus cette chose-là qui nous rassemblait. Ce qui les rassemblait, c'était pas l'idéologie, mais c'était Maître Agbogbo. Donc, ce qui les rassemblait, les membres du CAR aujourd'hui, qui sont en deux parties, ce qui les rassemblait, c'était pas l'idéologie, c'était pas le Togo, c'était pas l'alternance, c'était pas le bien-être de la population, c'était pas la démocratie, c'était Maître Yaoundé Agbogbo. Peut-être ces choses que je viens de citer, c'est un Maître Agbogbo seul que cela préoccupait. Peut-être Maître Agbogbo voulait l'alternance, il voulait la démocratie, il voulait le bien-être de la population. Peut-être on a vu ça dans plusieurs de ses actions. Mais ce qui l'entourait, c'était pas tout ça qui les intéressait. Et peut-être on a appris même qu'il payait des salaires. C'est-à-dire, il payait certains de ses proches, de sa proche, il leur donnait beaucoup d'argent. Il les éduquait. Il y a des gens qui l'appuient depuis leur bas âge.
Il était un père, un papa.
Il était un père. Donc, on peut pas faire de la politique avec cela. Vous imaginez? On peut pas faire de la politique avec cela. Donc, quand Maître Agbogbo est parti, donc tout le monde dit non, c'est avec ça.
peut-être les gens se disaient, mais c'est avec ça que Maître Agbo avait de l'argent. Donc si nous sommes, on arrive à s'y accrocher, on va avoir de l'argent, on va facilement. Là, je suis d'accord avec Francis qu'on a pas courant. C'est-à-dire, autant on a le cas, autant on peut facilement négocier avec le pouvoir, autant on peut avoir de l'argent. Donc les gens ne pensent pas au Togo. Les gens, moi je suis ahuri, je suis déçu de voir aujourd'hui les gens qui s'y, mais qui n'arrivent pas à se battre pour avoir un seul cas. Qui celui-là qui disait qu'il aimait que Agbo était son père. L'héritage d'Agbo, c'est le cas. Donc il fallait, moi pour moi, il devait se battre pour qu'on ait un seul cas. Et si aujourd'hui, lui aussi, il est de son coup, il est dans notre bord, mais je me dis, mais est-ce qu'il a suivi Agbo? Est-ce qu'il a aimé Agbo? Est-ce qu'il a épousé Maître Agbo? Parce qu'à l'époque, Maître Agbo, ce qu'il avait comme arme, c'était la méthode. Ils n'ont pas cette méthode. Ils n'ont pas aimé Agbo. Ils n'ont aimé que son argent.
Merci beaucoup, Firmin. Oui, merci, Francis.
Vous savez, Agbo, son charisme, hein, ou sa force d'aller négocier chez Adema, c'est rien du tout. C'est des deux personnes, c'est deux autodidactes. C'est deux personnes qui ont pratiquement les mêmes cultures, sauf Adema est du Nord, Agbo est du Sud. Ils parlent le même langage. Ce n'est pas la même chose quand Edem Kodjo arrive devant lui. Edem Kodjo, lui, c'est Tchin Tchin, c'est Yovovi. Vous comprenez? Et les autres. Donc, Adema préférait, quand c'est chaud, il appelle Agbo. Oui, Agbo, quand on dit Agbo, vous voyez ce que c'est. Bon, ils échangent, ils trouvent un terrain d'attente. C'est tout. C'est parce que ces deux personnes qui s'entendent et qui, disons, qui ont les mêmes dimensions sociales. Donc, on n'a pas chose. Au Togo, je dis que ce que nous avons vécu dans les années 90, qu'on n'a pas pu avoir la première alternance avec Edem Kodjo, c'était le tournoi décisif. Et par après, c'est fini. C'était des coups bas ici et là. Et chacun tire son collègue, l'autre parti, et vers le bas. Et à chaque fois, on dit dialogue, négociation. C'est pour aller chercher de l'argent. Si ce n'est pas ici, c'est chez le facilitateur. Ils prennent de l'argent. Nos opposants, ils n'ont pas... Vous-même, vous les connaissez tous. En dehors d'Agbo et d'un Kodjo qui ont fait un peu... qui ont travaillé, il y a beaucoup. C'est des chômeurs. Ceux qui sont rentrés tout dernièrement dans les CENI, dans les choses... Quand à la fin, on veut leur retirer des commissions, on veut leur retirer les voitures, c'est difficile. Parfois, le garage central est obligé de prendre un remorqueur pour aller soulever la voiture dans leur maison ou bien à une devanture. Donc, ça veut dire que nous avons des problèmes qui veulent régler des problèmes. Ça va être compliqué. Donc, c'est pourquoi nous en sommes là, nous tournons en rond. Si quelqu'un sait qu'il veut créer un parti politique qui ne reste pas dans le cocon de Agbo, qui soit capable comme Maître Apevon d'aller créer, d'accord, et non rester toujours dans
Merci Francisco.
Je voudrais faire relever deux petites choses.
Rapidement.
Oui, rapidement. La première chose, peut-être je vais heurter les gens. Moi, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui détruit l'opposition togolaise. C'est la rancœur. C'est la méchanceté. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du congrès du CAR. Comment les gens prononçaient des incantations. Comment les gens voulaient boxer leur prochain. Vous imaginez? Si vous arrivez à lire le ton, toutes les actions de l'opposition, vous avez vu comment, ou vous voyez comment les gens s'opposent de façon énergique contre leur propre opposant. C'est-à-dire, il y a une certaine méchanceté qui caractérise cette opposition. Moi, j'ai eu, excusez-moi de vous le dire, de trahir ceci, j'ai eu la chance de rencontrer Maître Agbo en décembre 2019. Il m'a dit, si vous voulez faire de la politique et vous ne faites pas la politique comme Jésus-Christ, vous ne pouvez pas faire de la politique. C'est-à-dire, ce qui caractérise la politique, en premier lieu, c'est l'amour. L'amour, cet amour-là, nous n'arrivons pas à voir ça. Ici, dans la politique togolaise, il y a là une certaine méchanceté, quoi. Et vous lisez, mais vous dites, mais les gens, ils sont... C'est quelle méchanceté, ça? C'est ça qui fait que les choses n'avancent pas. La deuxième chose, mais il y a quand même un parti qui n'est pas arrivé à se disloquer ou à s'autodétruire ou à se subdiviser, c'est la CDPA. Vous voyez que Madame Adjim Agbo, quoi qu'on puisse le reprocher, en tout, elle reste toujours ouverte.
Tout à fait.
Oui, en tout, la CDPA, vous n'avez pas vu qu'il n'y a pas de. Il n'y a jamais deux CFDPA. Quand on voit UFC, UFC, il y a une partie qui est devenue ANC. Quand on voit CAR, il y a une partie qui est devenue FDR, ainsi de suite. Même le PNP, il y a d'autres qui sont sortis dedans. Mais la CFDPA est restée toujours compacte. Donc, en tout, la CFDPA reste toujours ouverte à la démocratie. C'est-à-dire, elle fait toujours les regroupements. C'est-à-dire, elle quitte CAP, elle va après, c'est pour 2014, 2017, c'était quoi? C'était la C14. Après, DMK, aujourd'hui DMP. Donc, la CFDPA est toujours ouverte. Donc, ceux-là, je peux dire, oui, ils ont toujours cette bribe de la démocratie. Démocratie d'abord, multipartisme après. Mais le reste, là, oh, c'est la méchanceté, la rancœur, la rancune.
Le sujet est passionnant, mais nous allons quitter rapidement ce sujet et nous allons aborder un autre sujet alors dans cette émission. Et c'est justement le dernier tournant, même d'ailleurs, de cette émission. C'est nous allons nous transporter au Niger. Nous savons que depuis un temps, le Niger fait parler de lui sur le continent africain, surtout dans la sous-région ouest-africaine. Et le dernier développement nous apprend tout simplement qu'une délégation de la CEDEAO était hier au Niger. Mais malheureusement, cette délégation n'a pas été reçue par le général Tiani. Et au-delà de tout, encore autre chose dans ce dernier développement. On voit que les médias comme RFI et France 24 sont suspendus dans le pays. Alors, c'est vrai, c'est pour ce sujet sûrement que nous avons invité monsieur Bossa Kofi Maoulé. Vous êtes le président alors du mouvement international pour les États-Unis d'Afrique. Monsieur Bossa, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Alors, quelle lecture vous faites de cette situation au Niger?
Avant de me prononcer sur la situation au Niger, permettez-moi quand même de placer quelques mots par rapport à la situation dont vous avez débattu ici au Togo, surtout la presse et tout ça. Pour moi, je pense que la distribution de l'argent en Afrique, moi je parle de l'Afrique, je préfère parler de l'Afrique du Togo parce que ce qui est une réalité ici n'est pas différent de ce qui est ailleurs. Donc, nous vivons la même réalité dans toute l'Afrique. Donc, distribuer de l'argent, c'est comme une solution de repatriage, en fait. C'est du repatriage. Ça n'apporte pas la solution réelle au problème. C'est comme vous traitez la fièvre, mais le plasmodium est toujours là. Ce n'est pas non plus inutile de traiter la fièvre, bien entendu, mais il est plus important de travailler à régler le problème à fond. Voilà. Donc, c'est ce que moi, j'allais dire par rapport à cette façon de distribuer de l'argent. On en fait partout, mais au même moment, on travaille également pour pouvoir résoudre le problème depuis la racine. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voudrais dire par là. Et puis, les politiciens en Afrique, en réalité, je voudrais dire, et par là, saluer donc toutes les fidèles auditrices et tous les fidèles auditeurs de Canal FM et du Club de la Presse. Pour leur dire en plus que les politiciens ne sont pas là pour les peuples, en fait. Ce sont des businessmen en réalité, qui placent leur pion là où ça les intéresse. Et c'est là où ils trouvent de leur intérêt qu'ils vont. En réalité, lorsque les peuples placent leur espoir et toute leur confiance dans des hommes politiques, ils seront toujours déçus. Ça, c'est la triste réalité, surtout africaine. Il faut noter ça. Peu importe l'homme politique ou les policiers que vous placez là, ce sont des gens qui sont en train de faire leur business. C'est des hommes d'affaires qui se servent de la politique, en fait, pour pouvoir réaliser leur business. Voilà. Alors, donc, c'est dire que quand vous voyez tout ce qui se passe dans les partis politiques et tout ça là, dès lors qu'on n'a pas inculqué dans la tête des gens le patriotisme au bas âge et qu'ils ne s'engagent dans la politique que par patriotisme, vous convenez qu'on va toujours vivre la même chose de la même manière aussi longtemps que ça va se passer de cette façon-là. Alors, je me transforme maintenant sur le Niger, qui est toujours chez nous en plus.
Oui.
Vous savez, c'est dommage ce qui se passe en Afrique, en réalité. Parce que lorsque vous observez bien ce qui se passe depuis un certain nombre de temps, les coups d'État qui se suivent, qui s'enchaînent et tout.
Mais surtout dans le Sahel.
Dans le Sahel, il y a un mal. Il y a un mal profond qui est là, que nous vivons tous. Il y a un ras-le-bol également des peuples par rapport au système géopolitique international dans lequel l'Afrique s'est retrouvée et qui étrangle l'Afrique depuis très longtemps. Vous comprenez? Il y a ras-le-bol. Maintenant, au Niger, les gens, ils ont les affaires armées. Moi, je ne dirais pas que les militaires... il y a des coups d'État qui ont sauvé des peuples et des pays. Il y a des coups d'État qui ont noyé des pays. Donc, sur la ligne, je ne dirais pas fatalement qu'un coup d'État, c'est mauvais. Moi, je ne le dirais pas. Maintenant, ce n'est pas la meilleure façon de prendre le pouvoir. Ça, on est d'accord. Ce n'est même pas souhaitable. Autant vous êtes des militaires, vous avez des choses à dire, dites-le et discutez avec vos frères qui sont là, OK? Et trouvez un terrain d'entente prenez vos responsabilités, mais ne brimez pas des gens également dans, parce que quand certains ne peuvent pas sortir manifester, il y a des blessés dans cette affaire-là. Des gens qui sont aigris dans cette affaire-là. Et ce n'est pas. Nous, panafricains, le panafricanisme d'ailleurs nous enseigne quoi? L'union de l'Afrique et des Africains, des peuples africains. Tout ce qui cisaille la communauté, tout ce qui brise le bâton social entre les Africains, ce n'est pas bien pour le panafricanisme. Alors, je pense que les militaires qui prennent le pouvoir en Afrique peuvent procéder d'une autre manière. Créer une dynamique de dialogue ou de concertation et tracer une ligne. Et là, on embarque tout le monde, civil comme militaire, on s'y inscrit et on avance ensemble. C'est beaucoup plus utile que de créer des situations comme ça. Maintenant, la CEDEAO, elle a ses règles, bien entendu. Mais je pense que la CEDEAO finit par se retrouver en déphasage par rapport aux réalités de terrain. Je pense que la CEDEAO doit descendre, doit quitter les palais et tout ça là, pour redescendre vers les populations, les peuples, pour voir ce que vivent les gens.
Vous voulez parler d'une CEDEAO de peuple.
Une CEDEAO de peuple, oui. Une CEDEAO qui n'est plus perché très haut, mais qui se descend tout bas au peuple, vers le peuple, et qui comprend l'aspiration. Parce que comment vous comprenez que la CEDEAO même est décriée dans les rues de ces pays concernés, vous voyez? Ça veut dire quoi? La CEDEAO devient même de plus en plus impopulaire. Il est bien vrai que ce n'est pas à tout moment que le feu fait réfléchir rationnellement, mais il faut quand même que la CEDEAO arrête de cette idée-là de l'intervention militaire au Niger, parce que là, nous risquons de faire la deuxième Libye.
Francisco, c'est vrai, vous suivez le développement lors de la situation même d'ailleurs au Niger. Et quelle est votre appréciation par rapport à cette question de coup d'État et aussi de l'intervention de la CEDEAO alors dans ce pays?
Non, je m'inscris totalement dans ce qu'il a dit, d'accord, que on ne doit pas aller au coup d'État, on doit aller dans des discussions. D'accord? Et là, on peut en arriver si nous avons des institutions fortes et non des hommes forts à la tête des États. C'est tout ce que vous avez dit. C'est un idéal. On va vous dire que c'est un idéal. Parce que celui qui va apporter cette discussion, allons discuter, on dirait la mutinerie, on commence, ça va être même pire. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nos pays, nos chefs d'État ne sont pas encore prêts à recevoir des observations, des critiques pour porter la démocratie. La démocratie est de façade. Nous avons vu le Niger. D'accord ? Moi, je condamne le coup d'État. Mais est-ce que si les élections avaient été transparentes, bien organisées au Niger, est-ce que Bazoum serait président ? Posons-nous cette question. Tout le monde a vu dès le départ que c'était un candidat fabriqué pour arriver. Et regardez l'orgueil du président qui parle à ses militaires, à son peuple. Ce n'est pas normal. C'est comme si, bon, il a une base militaire française, il a une base quoi, bon, donc rien ne lui arrivera. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que ne parlons pas de la démocratie lorsqu'on fait le coup d'État militaire, mais parlons de la démocratie avant le coup d'État militaire. C'est la prévention des coups d'État militaires. Maintenant, avec cette histoire de contingent pour aller, depuis quand ils ont pu arriver à ça, je me rappelle en 90, en 92, c'est la France qui a donné, disons, du boum au cœur à l'opposition togolaise en envoyant une centaine de militaires qui sont restés à la frontière de la Côte d'Ivoire. C'est deux ou trois qui sont rentrés au pays. Et après discussion, ils sont retournés. Une centaine contre une armée de Yadéman. Ils peuvent quoi? Et depuis l'histoire, en dehors de la Gambie, et la Gambie, on a vu comment c'est un petit état dans chose qui n'avait pas pratiquement d'armée pour envoyer Yaya Jamais. On n'a même pas pu le prendre. Il a dû fuir.
Voilà.
Est-ce que vous voyez? Mais lequel dans ces interventions, laquelle a pu réussir? Donc, les gens oublient que les peuples, regardez dans notre pays, le Togo, le nombre de Nigériens qui se baladent dans les rues. Regardez au Nigeria, le nord du Nigeria, tout ce qui peut être là-bas. Comment ils peuvent aller faire une guerre contre un peuple? Parce que on dit qu'on a séquestré un de, disons, leurs copains. Enchaîner à la place même de ceux-là qu'on appelle la junte, il suffit de prendre Bazoum, d'aller le déposer aux abords du grand marché de Niamey. On verra ce qu'il va devenir. Peut-être là où il est en protection. D'accord ? On ne peut pas le prendre là-bas, aller déposer en ville à Niamey pour voir s'il est élu démocratiquement ou pas. Donc, il ne faut pas qu'on s'amuse avec lui. Ce qui dérange le plus, c'est quand un peuple a confiance en vous. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité sur la mer. Les pays sans littoral ne doivent pas être condamnés à cette fermeture fantaisiste de frontières. Parce que je vais vous dire, le dégât économique derrière la fermeture des frontières, surtout ce que le Bénin a fait, c'est un assassinat. Le commerce maritime se définit des mois avant. Quand vous faites un booking, c'est peut-être 3 mois, 6 mois. Et il y a les bookings qui sont la chose. Pour les modifier, ce n'est pas facile. Mais les gens ont transporté des marchandises qui sont dans votre port. Des gens ont chargé qui sont en train d'aller dans choses pour sortir du pays. Mais vous les bloquez. Ce n'est pas. C'est, non, il y a des choses qui sont inhumaines.
Voilà.
Et économiquement aussi, ça va agir sur le Bénin.
C'est vrai que nous avions vu une CDAO parlait même d'ailleurs d'une intervention militaire au Niger. Il y a le général Tiani qui dit même d'ailleurs qu'il va riposter quand vraiment une force comme cela arrivera alors dans le pays. Au même moment, il y a le Mali et aussi la Guinée et le Burkina Faso qui s'allient derrière le général Tiani alors pour que du moins ce combat-là soit fait. Est-ce qu'on ne va pas vers un problème militaire qui va plus détruire l'Afrique?
Non, non, on ne pensait même pas à ça. On n'arrivera jamais à ça. Non, vous croyez que quoi? Moi, quand les gens parlent, c'est-à-dire vous croyez que la CDAO va avoir une armée de troupes et puis va affronter le Niger, le Burkina Faso? Non, ça n'arrivera pas. Jamais.
Ah bon?
Non, ça n'arrivera pas. Mais là, vous savez comment on fait pour entretenir une troupe? Vous savez combien d'euros il faut pour entretenir une troupe? Moi, je vais vous dire. La MINUSMA, vous savez combien elle investissait au Mali chaque mois? 1,6 milliard de dollars chaque mois. Pour pouvoir entretenir une troupe, pour pouvoir avoir une troupe, il faut de l'argent. La CDAO va trouver ça. Combien le Togo va donner? Combien le Ghana va donner? Pour pouvoir entretenir une troupe. Et quels sont ces soldats, ces militaires qui vont accepter aller s'engager? Regardez ceux-là qui sont allés combattre dans l'ONU. Mais c'est l'ONU, c'est les Nations Unies qui ont mis les moyens. Ce n'est pas l'Union africaine, ce n'est pas la CDAO non plus. Donc la CDAO a les moyens où elle ne peut pas. C'est tout dont elle rêve. Elle ne pourra pas.
C'est de l'illusion.
C'est de l'illusion. Ce que tu nous boues, introduit, on lui a montré qu'en réalité, que lui, il est venu dans un monde qui était plus vieux que lui. Quand il dit qu'il n'y aura pas de coup de terre, on lui a montré que non, qu'en réalité, il ne pourrait pas bouger. Et quand il dit qu'il va redorer le blason de la CDAO, il doit savoir que la CDAO appartient à la France. La CDAO, c'est la France. Vous vous rappelez, mais ce qui s'est passé au Togo en 2005, l'Union africaine et la CDAO, à l'époque, l'Union africaine qui la dirigeait, c'était le président du Nigeria, Obasanjo. Lui n'était pas d'accord que Fonia Singh soit président. Et s'il était opposé farouchement, mais il a fallu que Jacques Chirac, président de la France, à l'époque, l'appelle et lui dise: monsieur, tu t'alignes sur la position de la France et tes dettes vis-à-vis du club de Paris. On l'oublie. Et il s'est aligné. Vous savez qui était le président de la CDAO, en exercice de la CDAO, en 2005? C'était Mamadou Tandja, président du Niger.
Oui.
Sa ministre des Affaires étrangères, c'était Aïchatou Midaoudou. Ils étaient, c'était tous alignés sur la position de la France. La CDAO appartient à la France. La CDAO, l'Union africaine, ça appartient à la France. Vous savez comment on a fait pour choisir le premier ministre Charles Konan Bani, père à son homme, de la Côte d'Ivoire en 2006? C'est Chirac qui a appelé, qui a dit: mais choisissez Charles Konan Bani. Les gens doivent le savoir. De tout ce que les chefs d'État de la CDAO sont en train de faire en parlant de armée, ça n'arrivera pas. On n'aboutirait jamais à ça. Mais sauf que, ce qui me dérange, première chose, je condamne fermement les coups d'État. Mais c'est que les coups d'État, ça devient un jeu. Parce que toutes les raisons amènent au coup d'État. Par exemple, au Burkina Faso, Wakissa Kabore, il a été bien élu. Mais on a fait un coup d'État. Ibeka au Mali, il a été bien élu. On a fait un coup d'État. Afa Condé, on parle de troisième mandat. On fait coup d'État. Mais Niger, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dit que Bazoum, c'est un pro-djihadiste et que c'est un étranger qui n'est pas trop nigérien. Mais excusez-moi, mais c'est des bêtises politiques. Vous savez,
Ceux-là qui ont étudié l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis, ils ont dit, avec cet attentat, il va falloir plus de 211 ans aux États-Unis pour retrouver sa sécurité d'antan. Mm. Avec ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, World Trade Center qui s'écroule, on dit les États-Unis, ce que les États-Unis ont perdu en termes de sécurité, il va lui falloir plus de 211 ans pour retrouver la sécurité d'antan. Donc, si vous commettez un coup d'État comme cela, ça veut dire que vous détruisez l'avenir sécurité, l'avenir de votre pays. Mmh. Au Burkina Faso, près d'une dizaine de coups d'État en 60 ans. Au Mali, n'en parlons pas. En Guinée, Niger, vous vous rappelez le 18 février 2009, Mamadou Tandja, président d'alors, était en plein conseil des ministres à midi, comme ça, on lui a fait un coup d'État. Et les gens applaudissent ça. Excusez-moi, c'est des bêtises. Nous sommes en train de détruire le continent. Mmh. Le continent n'a pas besoin de coup d'État avant de se développer. Mmh. C'est grave ce qui se passe.
Merci beaucoup, Filmé. Je pense que.
On parle comme. On parle comme si. Si c'est ceux qui sont dans la rue qui aiment le coup d'État. C'est-à-dire qu'on nous a habitués à la médiocrité. Et à chaque fois, on prend une médiocrité, on veut prendre une médiocrité pour, disons, laver l'autre. Mmh. Il a dit tout à l'heure que Kabore a été élu démocratiquement. Vous avez suivi, vous connaissez la protestation qu'il y a eu derrière, d'accord, l'élection de Kabore. Attendez. Oui, je ne veux pas que ça soit une démocratie, disons, de pacotille. Mmh. Il faut que ça soit réel, c'est ce que je venais de dire.
Francisco, merci, mais je vais te couper.
Les militaires peuvent discuter avec les gouvernants, mais ce n'a pas toujours été évident parce que nos chefs d'État ne sont pas prêts, ils sont désignés ailleurs.
Merci beaucoup Francisco, je sais que c'est un sujet passionnant et que si nous pourrons même prendre une journée pour en discuter, on le fera. Et donc nous allons maintenant donner, puisque nous avons l'injonction du temps aussi, nous allons donner la parole à nos éditeurs, mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission, émission Club de la Presse, et vous comprenez que maintenant nous ouvrons à vous, auditeurs, auditrices de cette émission 22 21 33 74, 91 36 63 75. Ce sont ces deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler pour se prononcer sur l'un ou l'autre sujet débattu ici au Club de la Presse. 22 21 33 74. Allô, premier auditeur en ligne. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, le nom?
Moi, je suis Emmanuel, j'appelle de Baguida.
Emmanuel, vous nous appelez de Baguida.
Ouais.
Allez-y.
Bon, par rapport au coup d'État de Niger, là. Mais je pense que, premièrement, j'aimerais savoir quelle est la position de notre pays par rapport à ce coup d'État-là.
Allô.
Oui.
Oui, notre pays, le Togo, fait partie de la CEDEAO. Et vous comprenez que la position de la CEDEAO, c'est la position du Togo.
Mais visiblement, j'ai l'impression que comme notre pays a soutenu, je ne sais pas, de façon indirecte, le Mali, et n'a pas trop condamné le Burkina aussi parce qu'il défendait une cause noble. La cause noble que nos États ont été pillés. Ce qui est marrant de savoir, c'est que vous allez constater que aucun pays anglophone n'a connu ce genre de situation. Donc, pourquoi, la question de savoir pourquoi il y a eu ce coup d'État-là. Ce n'est pas qu'on soutient que le coup d'État est bon, ce n'est pas bon. Il faut que les élections sanctionnent celui qui doit gouverner le pays. Mais je pense que c'est pour défendre une cause noble que ce coup d'État ont lieu. Si les gens vont la direction qui satisfasse leur peuple, moi je ne pense pas qu'il y ait d'inconvénient à ça. Maintenant, dans l'option dans laquelle il y aura des interventions militaires, est-ce que notre pays aussi va participer? C'est toutes ces questions-là qui me tracassent la tête. Quoi. Donc je suis très content de votre débat aujourd'hui.
Merci.
Donc il faut qu'on ait des éclaircissements pragmatiques par rapport à cette intervention. Quoi.
Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, le journal Togo Matin nous apprend, par rapport à cette question que l'auditeur pose, coup d'État au Niger, la position du Togo est celle de la CEDEAO, avec la photo alors du ministre Kankan Malik Natsaba. Autre auditeur, allô?
Allô, bonjour Monsieur Hussein.
Bonjour, comment vous allez? C'est Pascal.
C'est Abdoul.
Abdoul, allez-y.
Oui, j'aimerais demander à Monsieur Firmin Tekou que il y a combien de sortes de coups d'État et s'il y a d'autres sortes de coups d'État comme on appelle les militaires des coutistes et les autres coups d'État aussi, comment on les appelle et est-ce que d'autres coups d'État aussi ont été sanctionnés par la CEDEAO.
Abdoul, merci beaucoup pour la question. 22 21 33 114 91 36 63 75. Auditeur en ligne, allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour le plateau.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Je me porte très bien.
D'accord, le nom?
C'est Armand.
Armand, allez-y.
Il faut dire que moi, je suis un peu... Je ne comprends pas. C'est-à-dire, la démocratie a ses piliers, ses principes, si on veut. Et la démocratie dit clairement que si on veut prendre le pouvoir, on doit passer par des élections. En tout cas, c'est la démocratie qui nous est venue des Occidentaux. Ce n'est pas la démocratie africaine. Aujourd'hui, quand les gens disent que la mentalité, il faut aller à une mentalité universelle, voilà le problème. La démocratie importée ne marche pas. Parce que ce qui se passe au Niger, le président a été élu, Bazoum a été élu, il n'a même pas encore fait la moitié de son mandat. Et aujourd'hui, on nous dit que sa garde présidentielle, il est en désaccord avec sa garde présidentielle.
Il est élu en 2021.
Et voilà. Et celle-là, c'est-à-dire le responsable de la garde, lui fait un coup d'État. Mais on ne comprend pas. C'est-à-dire, dans les textes fondamentaux, il y a. Et il est prévu tout faire en cas de ceci, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on constate très bien que ça ne marche pas en Afrique. Et voilà que les coups d'État se répètent. C'est vrai, beaucoup vont me dire que je suis un peu naïf. Il y a le côté géopolitique. Oui, la géopolitique existe dans tout le monde. Pourquoi chez les Blancs, ils n'appliquent pas cette géopolitique? C'est parce que quelque part, nous les Africains, nous n'avons pas encore atteint certains niveaux. Je ne dirais pas qu'on ne comprend pas, mais ce ne sont pas nos valeurs. Et il va falloir vraiment réfléchir sur la gouvernance de nos pays, surtout actuellement, tout ce qui se passe dans le Sahel. Il faut vraiment réfléchir, au lieu de dire menacer et autres. Ça ne portera pas vraiment. Merci.
Moi, merci beaucoup. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Salut le plateau.
Oui, salut. Le nom c'est?
C'est Monsieur Assiongbon.
Monsieur Assiongbon, allez-y. Vous nous appelez de quel quartier?
Ma question à Monsieur Francis Napokoura. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut réparer un mal par le mal?
Est-ce qu'on peut réparer un mal par le mal?
Parce que pour moi, le coup d'État, c'est un crime. Un crime, c'est un mal. Parce que moi, je ne comprends pas plus l'Africain. Même à l'international, les gens suivent les coups d'État. Moi, je ne comprends pas quoi. L'Afrique n'a pas besoin de coups d'État. Nous avons besoin d'élections fortes. Quelles que soient les raisons, ils ne veulent pas avoir les coups d'État. Pour moi, c'est ma position. Un mal, c'est un mal.
Merci beaucoup, Assiongbon. Bon, 22 21 33 114 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? 22 21 33 114 22 21 33 114. Allô? Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui,
bonjour. Oui, justement, vous y êtes. Le nom c'est
Le nom c'est Dr. Lawson, je vous appelle de Ratisbonne en Allemagne.
Ah, depuis l'Allemagne. Allez-y. Monsieur Lawson.
Ce que j'ai voulu dire, c'est que il faut que nous fassions vraiment attention à ce qui se passe dans notre pays, dans nos pays en fait. Ce qui se passe là, c'est que la France veut intervenir, au Niger sous la barrière de la CEDEAO. Donc, les Africains sont là à parler de démocratie, comme si la démocratie était un principe africain au nom duquel on peut tuer d'autres Africains. Donc, moi, je suis très mal à l'aise de voir que des Africains s'élèvent en une armée pour aller tuer d'autres Africains au nom d'un idéal qui s'appellerait la démocratie, mais qui n'existerait même pas en France, ni aux États-Unis. Donc, asseyons-nous, pensons à une solution à la crise nigérienne sans passer par les armes. Et il faut que les gens comprennent aussi que les chefs d'État sont au service des peuples et que lorsqu'ils ne sont pas, ils ne font pas ce que les peuples leur demandent. Les peuples ont tous les droits, incluant les armées, de les mettre dehors. Donc voilà ce que moi j'ai à dire. Merci et bonne journée, monsieur.
Merci beaucoup, monsieur Lawson, depuis l'Allemagne. Je pense que monsieur Lawson est le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Nous revenons ici au plateau, Francisco, et c'est vrai, il y a des gens qui ont posé des questions, il y a nos amis auditeurs qui ont réagi sur des sujets, mais notamment on a vu quand même que la question du coup d'État au Niger a tellement préoccupé les auditeurs. Quelles sont vos réactions par rapport à ces interventions alors des auditeurs?
Oui, c'est tout à fait normal, c'est choquant qu'à chaque fois qu'on se réveille, qu'on entende que, qu'il y a un coup d'État ici. Et un auditeur a demandé si on peut résoudre un mal
par le mal.
Et je dis que malheureusement, dans nos pays, nous avons choisi à résoudre une médiocrité par une autre. Puisque nos élections sont des médiocrités. Nos gouvernances, c'est la médiocrité. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à avancer. Donc, en lieu et place, on doit tout faire pour mettre en place des institutions fortes. Devant qui on peut, c'est-à-dire que les militaires ou les civils peuvent aller pour réclamer ou poser des problèmes et qu'on les prenne en compte et non qu'on les fasse des affectations punitives ou qu'on décide, par exemple, de les éliminer. Vous savez, depuis que le problème du Sénégal, je profite pour toucher le Sénégal, a démarré avec Macky Sall jusqu'à sa reddition pour le troisième mandat. Mais il continue. Personne ne lui dit rien. La CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, personne ne dit mot. Jusqu'au moment où ils vont tout faire pour choisir ou bien pour faire élire un président et tout le monde dira démocratique. N'est-ce pas? Mais alors que tout ce qui s'est passé pour pouvoir arriver à ce chef d'État, qui sera un chef d'État de pacotille, le jour qu'on va le descendre, on va quitter, on va crier, oh, on a fait coup d'État. C'est ce qu'on dit. Il faut que nos États qui sont là sur place travaillent pour que nous puissions avoir des institutions solides, pour que nous puissions organiser des élections qui adhèrent au peuple. Lorsqu'on fait un coup d'État, que les populations ne sortent pas dans la rue pour jubiler. Quand les populations sont dans la rue, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas avec ça qu'on doit résoudre les problèmes de nos pays. Mais malheureusement, mais vous avez vu, aujourd'hui, la bataille est médiatique est à l'avantage de ceux qui sont des gens de la junte, des poutistes. Voilà, malheureusement, puisque la bataille médiatique est en leur faveur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens ne partageaient pas du tout Bazoum et ça, tu sais, dans la démocratie qu'on est en train de défendre actuellement. Voilà.
Non. La situation devient dangereuse parce que moi, je ne vois pas un chef d'État qui puisse maintenant dormir tranquille. Hein. Ouais. Il n'y a plus de chef d'État en Afrique de l'Ouest qui puisse nous dire aujourd'hui que depuis l'autre mercredi, lui dort tranquille. Parce que ça, tout maintenant peut arriver. Ça dépend plus de votre élection, votre brillante élection ou élection démocratique. Ça veut dire qu'il y a des militaires, vous pouvez avoir l'esprit qu'il y a des militaires peut-être des fous dans votre armée qui peuvent du jour au lendemain se lever et vous faire un coup d'État. Parce que même la police sierra-léonaise a annoncé qu'il devait avoir un coup d'État, mais cela a été déjoué dans la semaine, le 31 juillet passé. Il y avait un communiqué de la police sierra-léonaise. Donc ça veut dire que ça devient un jeu. Et c'est dangereux. Et quelqu'un a demandé s'il y a plusieurs types de coup d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État. C'est-à-dire, ce qui vient de se passer, nous le condamnons et nous le condamnons.
Macron a dit que ce coup d'État n'est pas légitime.
Oui, oui.
Donc il y en a qui sont légitimes.
Non, mais maintenant, j'en viens. Quand quelqu'un a dit que
pourquoi la CEDEAO n'a pas sanctionné? Arrêtez, le problème est parti du coup d'État du Mali. Au fait, c'est là où la CEDEAO devait être beaucoup plus ferme. Mais la CEDEAO n'a pas été aidée par Emmanuel Macron. Vous savez, on serait du temps de Jacques Chirac, du temps de Mitterrand, peut-être du temps de François Hollande même, on serait passé à cette situation. Regardez, dans les années 90, il y avait eu ce genre de problèmes. Mais il a fallu que le président Mitterrand sorte pour annoncer à la boule la démocratie, et puis c'est fini. Si Macron, moi je me dis que Macron manque de langage diplomatique. Le problème a commencé avec lui, au fait. Quand il y a eu le coup d'État au Mali, il a commencé par insulter, je dis bien insulter. Mais c'est un gouvernement, ça, c'est un enfant de coup d'État. Donc il traitait les responsables maliens d'enfants. C'est quel type de gouvernement, ça? C'est un enfant de coup d'État. Donc vous, ça a énervé les gens. Et c'est ça qui n'a pas non plus aidé la CEDEAO. Peut-être on serait du temps de Jacques Chirac, cela ne se passerait pas comme ça. Vous vous rappelez, Jacques Chirac, lorsqu'il était président, est-ce que Gbagbo était président en Côte d'Ivoire? Et lorsqu'il y avait eu, les Français avaient été chassés de la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment Jacques Chirac a pu gérer la situation. Ils n'avaient pas enlevé, ils n'avaient pas fait un coup d'État à Gbagbo. Mais ils ont su gérer la situation jusqu'à ce que Sarkozy n'arrive et ne fasse partie de Gbagbo. Donc Macron manque de maturité en ce qui concerne les dossiers France-Afrique. Ils n'arrivent pas à gérer. C'est ça qui complique la situation. Et c'est ça qui fait que les Africains se disent, mais qui est ce jeune-là qui vient et qui nous impose un certain nombre de choses et qui fait deux politiques, deux pas de mesure au Tchad? Il est venu lui-même donner son baptême au jeune débit. Vous imaginez, par exemple, en Guinée, il ne dit pratiquement plus rien parce que le moment du Mbouya s'est rangé de son côté. Donc c'est ça qui rend la situation un peu plus compliquée. La CEDEAO aurait pu bien agir ou aurait été beaucoup plus ferme lorsqu'il s'est agi pour les Maliens de faire leur premier coup d'État en 2020. Et là, on ne serait pas aujourd'hui à cette situation. C'est simple la situation.
Merci pour ça.
Oui, et tout d'abord, je voudrais dire que qu'on l'appelle la France ou autre, qu'elle s'éloigne de nos affaires, de toute façon. Qu'elle s'éloigne très loin de nos affaires, parce que c'est nos affaires. Vous comprenez? Qu'elle aille faire des coups d'État en Russie, peut-être, etc., etc. Ils ont grincé des dents quand Donald Trump, mais pourtant, ils ne sont pas allés faire des coups d'État là-bas. Vous comprenez? Qu'ils s'éloignent de nous parce que c'est eux qui sont à la base de nos problèmes en Afrique, après tout. Donc, c'était un problème entre Africains. Même s'il y a des coups d'État, oui, il y a eu des coups d'État qu'on salue. Rawlings a fait un coup d'État. Aujourd'hui, il est cité parmi les grandes références qui ont posé le
Ghana démocratique.
Voilà, il n'est pas la démocratie. Cette affaire même de démocratie là, c'est un autre problème à régler en Afrique, parce que vous savez, ce n'est pas propre à nous ce modèle là. Nous avons notre modèle de démocratie qui fonctionnait beaucoup plus de façon beaucoup plus posée et stable que cette démocratie importée. Et nous avons horreur, nous sommes réfractaires de cette démocratie-là. C'est contre notre nature, notre fonctionnement, vous savez, parce que nous sommes un peuple africain qui a vécu pendant des milliers d'années avant que cette affaire-là nous soit injectée en Afrique. Et je pense que ça pose plus de problèmes que ça apporte des solutions. Depuis 90, vous voyez, l'Afrique, c'est de la merde. C'est de la pure merde en plus. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on comprenne que déjà même, nous les Africains, chacun chez lui, doit commencer par réfléchir sur le rôle et l'opportunité des élections que nous organisons en Afrique. Si nous devons jeter des milliards qui devaient servir de 90 à maintenant, combien d'élections le Togo a organisé? Ça a donné quoi? Si cette somme-là est mise quelque part pour construire le Togo, je pense qu'on serait très loin. On va oublier celui qui est au pouvoir. Vous comprenez? Il y a mieux à faire que les histoires d'élections et machin là.
Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Oui, nous sommes.
Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la France, c'est l'Africain lui-même.
Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Francisco. Oui. Merci beaucoup, Francisco. Voilà, rapidement, Waris Tellier, oui, qui est toujours avec nous. Waris, un mot culturel.
La présidente de l'association m'informe tout à l'heure que pour tous les auditeurs de Canal FM qui voudraient participer, il y aura une réédition spéciale. Et également sur la page de Mme Kaïdogbe, il y a une compétition qui permettrait aux gens de pouvoir participer. Donc, pour toutes ces informations, c'est le 98 96 54 52. Et rendez-vous demain à partir de 20h à l'Hôtel Olomou.
Voilà, vous voulez bien parler alors de ce gala masqué 100% charité qui est organisé demain. Voilà, qui est organisé demain samedi à l'Hôtel Olomou à partir de 19h. Merci beaucoup à Raïs. Merci beaucoup à vous, Francisco. Carton de fin d'émission rapidement pour clôturer.
Mon carton, c'est que le Togo doit saisir cette occasion pour résoudre, en collaboration avec le Niger et le Burkina Faso, le problème de djihadisme au nord Togo et sur le tronçon Fada, Kanchari jusqu'à Torodji.
Puisque c'est le fond même du problème.
Voilà.
Voilà. Et Fiamé ?
Mon canton, il est vert. C'est à l'endroit des forces armées togolaises, et surtout à l'endroit de ces militaires qui se battent à nos frontières pour lutter contre les djihadistes. Que Dieu les protège.
Merci beaucoup. Monsieur Boussa, carton de fin d'émission ?
Oui, mais moi, je donne un carton rouge, rouge écarlate aux puissances étrangères qui viennent toujours. Et voilà, nous, ambassadeurs en Afrique et tout ça là. Je me rappelle encore de Bob Denard, ce mercenaire là que la France a utilisé pour assassiner, faire renverser des pouvoirs en Afrique. Je veux bien dire par là que le problème de l'Afrique n'est pas que africain.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Boussa. Et alors, nous rappelons juste que Togbi Agbeli Baga, cette chef canton alors de Lavier sera enterré demain samedi. Togbi Agbeli, il est décédé alors le 13 janvier 2023 et à l'âge alors de 92 ans, il a passé pratiquement 65 ans de règne, 65 ans au pouvoir, et donc il sera inhumé demain dans son village natal à Lavier. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui avez participé à cette émission. Francisco, merci. Firmin Teko Agbo, merci à vous. Monsieur Boussa Kofi Maoulé, merci. Waris, merci. Merci à Thomas Dativi qui a assuré la mise en onde de cette émission. Géraud Akucha a assuré la mise en ligne. Nous allons nous retrouver le lundi, et sûrement Sas Gaou va vous retrouver le lundi pour un autre numéro de Club de la Presse. Je suis Pascal Lossou. Au revoir.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.